Les conférences du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus pour cette deuxième conférence sur le livre de Kohelet, de l'Ecclésiaste. La semaine dernière, nous avons déjà abordé un peu la structure, le contexte du livre de Kohelet. On a vu, il y a un cadre, une superscription au début, deux épilogues. À la fin du livre, il y a un cadre intérieur du livre avec un énoncé sur lequel je vais parler aujourd'hui un peu plus approfondiment. Vanité des vanités, Kohelet 1, 2 et 12, 8. Et il y a un corpus du livre, un corps littéraire avec des réflexions qui se suivent. La semaine dernière, nous avons vu que le livre présente une image du monde qui ressort particulièrement bien dans certains textes. Nous avons déjà pu avoir un aperçu de la pensée de Kohelet. Et cette semaine et la semaine prochaine, nous allons approfondir notre analyse de cette pensée à travers certains autres textes. Ce qui caractérise la pensée de Kohelet, c'est le lien entre différents sujets et ses perspectives sur le monde et le temps, sur l'homme et aussi sur Dieu. Le texte dans lequel cette combinaison de perspectives est particulièrement évidente se trouve tout au début du livre. Dans la réflexion initiale, réflexion d'introduction du livre, dans Kohelet 1, 2, 3 à 11, le monde, l'homme et Dieu jouent tous un rôle important. Ce texte ne se trouve pas seulement au début du livre de Kohelet, mais introduit également le traité de base de Kohelet dans les trois premiers chapitres du livre. Ce traité de base est suivi dans les chapitres 4 à 12 par d'autres réflexions s'appuyant sur cet exposé dans les chapitres 1 à 3. La réflexion dans Kohelet 1, 2, 3 à 11 sera donc aujourd'hui au centre de notre analyse, et après l'analyse de ce passage, un bref regard sur deux textes correspondants montrera comment Kohelet développe ses perspectives à travers le livre. Je recommence un peu avec la superscription sur laquelle on a déjà parlé la semaine dernière. Parole de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem. Cette superscription, vous vous souvenez du livre de Kohelet dans Kohelet 1, 1. Nous l'avons déjà abordé la semaine dernière. Au début de ce livre, Kohelet est présenté comme le fils de David, roi de Jérusalem, dans une certaine continuité avec la tradition de la littérature sapientiale, en particulier avec le livre des Proverbes. Et on a vu la semaine dernière des liens entre ces deux livres. Le texte sur lequel je veux travailler et parler aujourd'hui commence avec verset 2, et on lit là en hébreu « Havel havalim amar kohelet havel havalim hakol havel ». Vanité des vanités, on pourrait traduire vanité des vanités, dit Kohelet, vanité des vanités, tout est vanité. Ce verset 2 énonce une idée centrale de l'ensemble du livre. Havel havalim, hakol havel, souligné par l'expression amar Kohelet, a dit Kohelet, qui pose la thèse selon laquelle tout est vanité. Le terme clé dans ce contexte, c'est le lexème Hevel, qui est important pour l'interprétation de l'ensemble du livre. À son sens de base, Hevel désigne quelque chose comme vapeur, courant d'air, peut-être souffle. Mais il y a aussi un sens figuratif de ce mot qu'on pourrait traduire avec volatilité, éphémérité ou, comme vous l'avez dans la plupart des traductions en français, vanité. Avec la thèse selon laquelle tout est hevel, vanité, avec cette thèse au début du livre, Kohelet 1-2 ne crée pas seulement avec la fin du livre, Kohelet 12-8, un cadre littéraire pour l'ensemble du corps de ce livre. La déclaration ici au verset 2 introduit en même temps la réflexion suivante et précède également ce contexte initial du livre. On se trouve face à un phénomène littéraire caractéristique de plusieurs passages du livre, un verset ou un passage ne peut être attribué à un seul contexte littéraire, mais assume plusieurs fonctions au sein du texte dans son ensemble. Donc, Qohelet 1-2 fait partie du cadre intérieur du livre, mais également le premier verset de sa première réflexion. Et ceci est indiqué par la référence que je vous ai donnée, Qohelet 1-2.3-11, qui cherche un peu à mettre en évidence la position particulière du verset 2. Le raisonnement de la réflexion initiale du livre de Qohelet s'ouvre avec verset 3. Ce n'est pas par hasard qu'au début du raisonnement se trouve une question. Il ne s'agit manifestement pas d'enseigner ou d'instruire, mais d'impliquer dans la communication ceux qui lisent et perçoivent cette question. Même si l'on considère cette question comme une question rhétorique et qu'on limite ainsi son intention communicative, une question reste une question. Une question s'adresse directement à ses destinataires et, si elle ne les incite pas immédiatement à répondre, elle les invite du moins à réfléchir par eux-mêmes. Nous y reviendrons dans un instant. Dans la question posée, plusieurs lexèmes ou figures de style caractéristiques de la pensée de Qohelet sont intégrées. Amal, travail, yitron, le reste, et l'expression tachat hashamesh, sous le soleil. Ces expressions apparaissent à maintes reprises dans différents contextes du livre. Ce verset 3 peut être divisé en deux parties, même si l'expression bechol amalo, au centre du verset, fonctionne comme une charnière entre le début et la fin. La première partie du verset s'interroge sur ce qui reste à l'homme. Le lexème yitron est souvent traduit par profit. Cependant, la forme nominale abstraite yitron qu'on a ici dérive de la racine en hébreu yatar, qui désigne le processus de rester ou d'être en surplus. Au début de sa réflexion, Qohelet ne s'interroge donc pas sur le profit, mais sur ce qui reste à l'être humain. Il ne s'agit pas ici de critiquer ou de remettre en question les possibilités de profit humain, mais plutôt, dans une certaine mesure et dans un autre sens, de s'interroger sur ce qui reste. Le point de référence est Amal, en hébreu, le travail que l'homme accomplit pour gagner sa vie. Ce n'est pas l'effort que Qohelet souhaite souligner, mais le travail de l'homme. Et pour Qohelet, la question qui se pose dans tout travail est évidemment celle de ce qui reste. Le verset ouvre la réflexion par un regard sur l'homme, mais le place finalement dans l'horizon du cosmique. La place de l'homme, tachat ha-shamesh, sous le soleil, dépasse le cadre de référence du travail et de ce qui reste à l'homme. Avec cette expression, tachat ha-shamesh, Qohelet décrit l'espace de vie de l'homme. Mais cet espace de vie est en même temps situé avec sa référence solaire, si vous voulez, avec cette référence solaire dans des dimensions cosmiques. Le verset 3 est défini par ce triangle homme, travail et sous le soleil. Et l'ensemble est placé sous la question centrale, que reste-t-il ? Une question rhétorique susciterait la réponse « rien ». Mais même une question rhétorique n'est pas une communication au degré zéro. Une question ouvre un espace de communication. Celui qui formule une question n'a pas encore terminé, ni son raisonnement, ni sa communication. Cela vaut tout particulièrement lorsque cette question se trouve au début d'un texte, au début d'un livre. La possibilité de répondre par « rien » à la question posée et elle-même remise en question ici. À ce stade de réflexion, Coëlet se tâche très sérieusement de délimiter précisément le cadre de sa question et de ne pas réduire ce cadre à une réponse trop rapide et peut-être trop simpliste. La localisation de l'homme sous le soleil au verset 3 inscrit déjà la dynamique du changement lié au soleil dans ce domaine de l'homme. Cela devient encore plus clair au verset 4 qui se divise également en deux parties. Dès la première moitié du verset, la dynamique du va-et-vient permanent d'une ou de plusieurs générations est constatée. Avec le terme de « génération » en hébreu « dor », l'être humain du verset 3 est intégré dans un concept collectif. Ainsi, ce n'est plus l'accomplissement du quotidien de l'individu dans son travail qui est pris en compte, mais la succession permanente des générations. Les verbes se trouvent au participe qui doit être compris ici au sens duratif. Et cette succession est considérée au niveau supérieur comme une réalité fondamentale dans l'espace de l'humain. La deuxième moitié du verset commence à ce même niveau supérieur, mais ne se limite pas au domaine humain. Elle place en effet le lexème « ha'aretz », le monde, au début, qui décrit de manière récapitulative tous les processus et faits qui ne concernent pas seulement les êtres humains, mais la terre dans son ensemble. Le vav, le v, au début, et, traduction pour ce vav en hébreu, le vav au début de la deuxième moitié du verset a certainement un sens adversatif. Cela est souligné par le participe omadet et la proposition adverbiale précédente, le olam, qu'on peut traduire avec la terre subsiste pour toujours, à une durée permanente. C'est tout à fait ça ce que veut décrire cette expression en hébreu. Contrairement à la dynamique des générations successives qui sont marquées par leur caractère éphémère, le monde existe pour une durée indéterminée. Il s'agit là d'une affirmation à la fois cosmologique et anthropologique. L'existence permanente du monde, contrairement à la succession des générations, ouvre un espace de référence qui s'oppose à toute exagération et surestimation de l'être humain. La permanence du monde contraste avec le caractère éphémère de l'être humain. La thèse selon laquelle tout est hevel, tout est vanité, est ici confrontée à une perspective qui ne trouve pas son origine à propos de l'homme, mais au niveau du monde. L'idée de la vanité du verset 2 est en quelque sorte relativisée dans ce verset 4. Le monde a bel et bien une existence. Seul le domaine de l'homme apparaît comme Hevel. Alors que le verset 4 relie les perspectives anthropologiques et cosmologiques sous la forme d'un verset en deux parties, en bicolonne, le verset 5 présente une structure en quatre parties. Le verset reprend l'image du soleil du verset 3 et fait référence au verset 4 où il est question de la venue de la génération par une combinaison significative de mots. Dans le verset 5, c'est le soleil qui se lève et qui vient ou entre en hébreu bo, dans le sens de se coucher. Il se dirige vers un lieu pour s'y lever. Tout comme le déroulement des générations décrit précédemment, le parcours du soleil est décrit. Dans ce verset, avec la racine en hébreu sarach, donc à la lumière du soleil levant, qui apparaît comme concept directeur au début et à la fin du verset. Ce qui est remarquable dans ce verset, c'est l'idée d'un lieu vers lequel le soleil se dirige, El Mekomo, Shoef. La course, le chemin, la course du soleil a donc un point d'arrivée. Et ce point d'arrivée est en même temps le point de départ d'un nouveau lever. La conception égyptienne, par exemple, d'une barque solaire traversant le monde souterrain pendant la nuit est ici concentrée en un seul makom, un lieu, qui attire en quelque sorte le soleil et le laisse ensuite repartir vers son nouveau lever. Ce que le verset 5 développe à propos du soleil est approfondi dans le verset 6, lequel étant également divisé en quatre parties, à partir d'un autre phénomène de la nature. Dans les quatre parties du verset, il est d'abord dit de manière elliptique, si vous voulez, dans les deux premières parties, puis plus explicitement dans la troisième partie, que le rouach, le vent, va vers le sud, tourne vers le nord et tourne, ou on pourrait aussi traduire souffle, s'en va, le vent. Rouach, construit ici au masculin, est utilisé par Kohelet pour désigner le vent au sens d'un courant d'air qui souffle en permanence vers le sud et vers le nord. Kohelet formule cette partie dans un style répétitif et presque mimétique et phonétique qui reflète le mouvement du vent. La quatrième partie du verset résume ce qui est déjà suggéré dans les participes précédentes de Savaf, tourner, dans une sorte de motivation. Ce vivotaf désigne ici le mouvement circulaire propre au vent. Le pluriel de ce lexème en hébreu, saviv, le tournant, pourrait exprimer en tant que pluriel intensif le dynamisme particulier du processus. Le vent se caractérise par le fait qu'il change de direction et se déplace ainsi en mouvement circulaire. La linéarité qui semble encore rester à l'arrière-plan dans la représentation de la succession des générations devient ici, dans ce verset, une structure circulaire dans l'image de la course du soleil et plus explicitement dans la représentation du cycle du vent. Le texte fait apparaître une sorte de dynamique interne vers cette circularité. Pour Kohelet, la réalité est une course en cercle, le cercle des processus cosmiques. Et cette circularité est développée une seconde fois au verset 7, cette fois à l'aide de l'exemple des fleuves et de la mer. Dans une structure en quatre parties, de nouveau, le verset décrit le cheminement des fleuves vers la mer. Le verset semble alors débordant, et c'est exactement son intention. Le flux des rivières tend vers l'idée d'un débordement, d'un trop-plein et d'une inondation. La première partie du verset le dit déjà et la troisième et quatrième partie le soulignent. Là encore, on retrouve l'idée d'un makom, d'un lieu. Les fleuves reviennent sans cesse en coulant vers un lieu. Ce lieu est plus clairement identifié que dans le contexte du soleil, c'est la mer vers laquelle toute la dynamique converge. Dans cette troisième image, la deuxième partie du verset met l'accent sur une idée qui sera développée plus en détail par la suite. Les fleuves coulent, mais la mer n'est pas pleine. L'expression en hébreu « enenu malé » ne décrit pas un processus, mais un état. Le fait que la mer ne soit pas pleine et ne déborde pas peut être compris comme une observation et une prise de conscience dans le contexte de la conception de l'ordre du monde, aspect tout à fait central dans la pensée sapientiale. Le fait que tout soit en mouvement, que tout naisse et disparaisse, souffle et coule, s'inscrit tout de même dans l'idée directrice du verset 4. La terre a une existence durable. Les versets 5 à 7 peuvent être compris comme une description approfondie de cette perception du monde. La stabilité du monde n'est pas un fait statique, mais une vision qui fait abstraction de la dynamique des processus cosmiques, dont la nature peut être comprise comme suit. Le monde est un processus complexe, dynamique, coordonné et ordonnée. En d'autres termes, la perception de la stabilité du monde repose sur sa dynamique. L'ordre et l'ordre de ce mouvement peut être illustré par le fait que, malgré l'écoulement constant des fleuves, la mer n'est finalement pas pleine. Selon Kohelet, la dynamique du monde ne mène pas au chaos, mais établit une stabilité à partir de laquelle Kohelet part et l'illustre avec ses images cosmiques et de la nature, du soleil, du vent, des fleuves et de la mer. Le verset suivant, verset 8, marque un tournant anthropologique dans le texte. Comme les versets précédents, il se compose de quatre parties et fait suite aux formulations des versets précédents 5 à 7. Mais il ouvre en fait une réflexion tout à fait distincte. Cette réflexion poursuit tout d'abord les considérations des versets 3 à 4 qui évoquaient déjà l'être humain et la succession des générations. Les deux premières affirmations du verset 8 se rattachent aux questions posées au début du texte dans le verset 3 sur ce qui reste et sur ce qui préoccupe l'homme. Le verset commence par les maux et décrit leur épuisement, leur lassitude, leur fatigue. Cette première affirmation est reprise dans la seconde, avec la racine en hébreu d'Iber, parler, dont est dérivée la forme hadevarim, les mots, au début du verset, et avec la combinaison du verbe à l'infinitif, le daber, pour parler, dérivée de cette même racine d'Iber, avec ish, le mot pour l'homme, et l'expression « lo yuchal », il ne peut pas, il ne sait pas faire quelque chose, on se trouve avec tout ça dans le domaine des capacités et des incapacités humaines qui préoccupent Kohelet d'une manière élémentaire. La disposition des deux propositions est remarquable, alors que la première proposition, sous forme de phrase nominale en hébreu, fournit des informations en arrière-plan. La seconde, sous forme de phrase verbale, contient une proposition générale qui pourrait être comprise comme une sorte de proverbe. Deux points restent à éclaircir au niveau de la sémantique. Premièrement, que signifie cette expression un peu étrange « les mots sont fatigués » Et deuxièmement, que signifie la racine « yachol » pouvoir ou savoir faire quelque chose dans ce contexte. Première question, la fatigue des mots. Cette fatigue des mots pourrait faire référence à l'épuisement et à la lassitude de tous les mots. Cette fatigue survient-elle après une longue période d'utilisation intensive ? Cela serait très surprenant au début d'un ouvrage de sagesse. Ou bien Kohelet se base-t-il sur une fatigue fondamentale de toute communication qui l'amènerait alors à ne pas assez faire confiance aux mots en général. La déclaration qui sert d'arrière-plan à la phrase verbale suivante semble révéler une perspective de Kohelet sur les mots et leur efficacité qui est déterminante pour sa pensée. Kohelet semble supposer une limitation fondamentale des possibilités de langage. S'agit-il là d'une affirmation cosmologique ? À première vue, bien sûr que non. Cependant, le spectre sémantique du lexème d'avar en hébreu pour le mot ou les mots, de varim, les mots, dépasse la signification mot et englobe également des notions telles que fait ou même événement. Ainsi comprise, l'affirmation du verset 8 au début rejoint le constat du verset 2, selon lequel tout est hevel, vanité. À l'idée de la vanité de toute chose s'ajoute l'aspect de l'épuisement, de la fatigue qui, d'un point de vue cosmologique, justifie l'idée que l'utilisation des mots au sens d'événement ne peut guère aboutir. Deuxième question, à partir de cela, nous pouvons mieux discerner la signification de la racine en hébreu « yachol », pouvoir, savoir faire quelque chose dans ce passage. Le fait que personne, aucun niche, personne ne sache parler, ne puisse parler, résulte de l'énoncé général sur la communication. La racine en hébreu ne fait pas référence à une incapacité fondamentale de l'homme à communiquer, ce qui sera difficile à comprendre de nouveau au début d'un texte de la sagesse. Il s'agit plutôt de l'incapacité à réussir pleinement la communication. Personne ne sait parler, personne ne peut parler, signifie alors personne ne sait parler de manière que la conversation aboutisse à un résultat positif. La seconde moitié du verset 8 poursuit cette perspective de la théorie de la communication, si vous voulez, sur un plan épistémologique et empirique. La communication humaine échoue parce que sa capacité ne le permet pas. La vue et l'ouïe humaine débordent en quelque sorte. Les impressions sensorielles mènent clairement au domaine de l'anthropologie. Les images utilisées par Qohelet relient les affirmations sur l'homme aux images cosmiques précédentes. Le fait que l'œil ne se satisfasse pas de la vue est une expression propre à ce passage. Mais que la vue ne s'assouvisse pas renvoie au problème qui se pose lorsque les besoins de l'homme ne sont pas satisfaits et ne trouvent pas d'aboutissement positif. C'est précisément cela qui conduira à l'épuisement et à la lassitude. Que l'oreille ne se remplisse pas en entendant reprend la formulation du verset 7. La mer n'est pas pleine, autant que l'oreille n'est pas pleine, ne se remplit pas en entendant. Les deux affirmations sont formées à partir de différentes formes de la même racine en hébreu, malé. Mais ce qui, au verset 7, doit être compris comme une affirmation garantissant la stabilité du cosmos, la mer n'est pas pleine, ceci reste ambigu en ce qui concerne les perceptions sensorielles de l'être humain. Le fait que l'oreille ne se remplisse pas à l'ouïe exprime d'une part la capacité permanente d'entendre, mais signifie d'autre part que l'écoute, tout comme la vue, ne mènera à aucune fin heureuse ni conclusion satisfaisante. Il est important pour le raisonnement de comprendre que l'être humain agit de manière incomplète et inachevée. Il se trouve à l'horizon d'un cosmos dont la dynamique cyclique apporte de la stabilité au monde, mais l'homme ne contribue pas à cette stabilité à cause de ses limites. Pour Qohelet, comprendre le monde comme un cycle global signifie également remettre en question de manière critique les capacités de l'être humain au sein de ce cycle. Avec ce texte au début du livre, il apparaît clairement que Qohelet relativise aussi sa propre sagesse humaine, notamment par rapport au cosmos dont la stabilité existe en soi et indépendamment de l'homme. Après les exhortations cosmologiques et anthropologiques des versets 3 à 8, qui ont déjà présenté sous différents aspects la façon dont le monde, dans sa circularité, se présente à Qohelet, le verset 9 du premier chapitre résume ce qui ressort du précédent. Avec les verbes « haya », être, et « asa », faire, au nif'al, une forme passif ou réflexif en hébreu. Avec ça, l'on constate, du point de vue d'un observateur dans le présent, ce qui a été sera, et ce qui s'est fait se fera. La racine « asa » faire introduit l'aspect d'action, mais la forme en hébreu ne devrait pas être traduite seulement au passif, car l'aspect passif « être fait » et l'aspect réflexif « se faire » constituent en même temps les deux facettes de l'énoncé en hébreu. Les deux affirmations ne traitent pas tant d'une répétition de ce qui est, de ce qui est fait ou de ce qui se passe. Les formulations soutiennent plutôt une interprétation qui présuppose une continuité dans le temps, s'étendant du passé jusqu'à l'avenir. Il faut noter que la linéarité des formes verbales n'existe pas de la même manière en hébreu que, par exemple, en grec ou en latin, peut-être aussi en français ou en allemand. Si l'on examine attentivement plutôt l'aspectivité, donc un système temporel qui tient au aspect d'un énoncé, si l'on examine cette aspectivité du système verbal en hébreu, on pourrait traduire ce qui a été accompli une fois en tant qu'action redeviendra inachevé et ouvert. Avec une telle traduction, avec une telle formulation, l'accent serait moins mis sur la durée que sur le caractère achevé ou inachevé de l'action. Il faut également considérer que le verset 9 est composé en trois parties. Les affirmations sur l'être et le devenir dans le verset 9, dans les premières parties, sont concentrées dans le verset à la fin, dans l'affirmation selon laquelle il n'y a rien de nouveau sous le soleil. In kol chadash tachat hashamesh. Cette expression reprend à l'identique la formulation du verset 3. Ici comme là, cette expression décrit le domaine d'action et la sphère d'influence de l'homme à propos desquels Qohelet conclut, sur la base de ses réflexions, qu'il n'y a absolument rien de nouveau, in kol chadash, sous le soleil. Compte tenu des cycles du monde, le lexem chadash y tient une place importante. Dans la pensée de l'Antiquité, la nouveauté n'est pas nécessairement synonyme de bien. En tant qu'inconnu, le nouveau peut également être perçu comme menaçant et dangereux. La thèse de Qohelet, selon laquelle il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ne doit en aucun cas être comprise comme une vision résignée, voire négative du monde, compte tenu de la constance de ces cycles. S'il n'y a rien de nouveau, cela signifie évidemment que ce qui existe jusqu'à présent perdurera et ne disparaîtra pas. Tout comme à la fin du récit du déluge dans Genèse 8, verset 22, où la pérennité de la terre est promise face à toutes les menaces, Qohelet semble également vouloir promettre la permanence et la stabilité du monde à ses lecteurs, et donc l'absence de toute nouveauté. Il est possible que ces approches se développent dans la pensée de Qohelet compte tenu des attentes émergentes d'un nouveau début, qui serait toutefois précédé par des ruptures et des grands bouleversements de l'ordre établi. Qohelet s'oppose à une telle pensée que l'on retrouve dans certains textes prophétiques et en plus dans la tradition apocalyptique. Dans les versets 4 et 9 de sa réflexion initiale, Qohelet affirme qu'en raison de la permanence du monde, aucun bouleversement de ce type ne se produira et que rien de nouveau n'arrivera sous le soleil. Avec le verset 10, un phénomène devient visible dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, à savoir l'ancrage de Qohelet dans la tradition de la sagesse. Cela inclut également une discursivité qui se manifeste lorsque Coëlette développe sa pensée dans un échange entre thèse et antithèse, ou plutôt entre citation et contradiction. On voit tout d'abord que la thèse de Coëlette, selon laquelle il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est en aucun cas incontestée. Il existe au contraire un mot ou une expression qui dit « voici, c'est nouveau ». Coëlette s'y oppose en disant « cela existe depuis longtemps, si l'on considère les temps qui ont été avant nous ». Pour Coëlette, l'interprétation d'un événement comme étant quelque chose de nouveau découle avant tout de la méconnaissance du passé. Il existe une certaine lacune en ce qui concerne les sources des connaissances de Coëlette dans ces contextes. À plusieurs reprises dans ses réflexions, Coëlette fait référence à ses observations et à ses expériences comme source de connaissances. « Ra'iti, j'ai vu quelque chose », dit-il à plusieurs reprises. Dans ce verset 10, il ne fait justement pas cela. La racine « ra'a » y est pour voir, regarder quelque chose. La racine « ra'a » y est utilisée sous la forme de l'impératif dans la citation dont Coëlette se distancie. Coëlette semble considérer comme évidente ses conclusions sur la permanence du monde et l'absence de la nouveauté. Or, ce qu'il expose ici n'est manifestement pas évident, comme le montre la citation elle-même. Après avoir mis un accent discursif au début du verset avec la citation, Coëlette revient à son enseignement plus ou moins instructif. Dans la seconde partie du verset, il souligne surtout l'insuffisance de l'homme qui, selon lui, ne peut pas communiquer de manière appropriée à propos de la nouveauté. Et à la fin de la réflexion initiale, à la fin de ce texte, au début du livre de Coëlette, le verset 11 ne contient pas de résumé au sens propre, mais une poursuite de la chaîne des insuffisances de l'homme. Selon Coëlette, il n'y a pas de souvenir des premiers, ni des suivants qui viendront. Il n'y aura pas de souvenir chez ceux qui seront les derniers. Le manque ou l'absence de mémoire constitue en quelque sorte le lien entre les générations, mais ce lien n'en est pas vraiment un, car il manque justement ce qui fait ce lien, à savoir le contenu d'une mémoire. La racine « sachar », ce souvenir, la racine « sachar » en hébreu est le lexème principal d'une série de textes dans lesquels la mémoire devient l'élément décisif pour déterminer sa propre identité. À la question « qui sommes-nous ?» ne répondent pas seulement les grands récits des ancêtres et de l'Exode dans les livres de la Genèse et de l'Exode, mais aussi des textes comme la Confession qu'on peut trouver en Deutéronome 26. On pourrait même dire qu'en absence de cette mémoire, il n'y a pas d'identité. Au sein d'une telle culture de la mémoire, Coëlette, ici, défend la thèse selon laquelle il n'existe pas de mémoire des premiers et qu'il n'y aura pas non plus de mémoire des descendants pour les générations à venir. Cependant, Coëlette aurait pu voir, en observant attentivement son temps, qu'il existait une mémoire des générations précédentes. Mais il élargit sa perspective temporelle et suppose que même les souvenirs apparemment fondamentaux qui sont cultivés en son temps ne sont pas durables. Ce faisant, il contredit implicitement toute idée de renommée posthume ou de postérité parmi ses contemporains. Tout comme il n'y aura pas de mémoire des anciens, des premiers et des futurs, il en va de même pour le présent et la génération actuelle. Dans un passage comme celui-ci, on peut tout à fait reconnaître un ton sceptique ou pessimiste de Qohelet. De ce temps découlera par la suite l'idée de Qohelet de le réessayer, de reprendre la sagesse d'une manière complètement différente, en quelque sorte à la façon royale. Et c'est tout à fait ça ce qu'il fait dans la fiction royale, dans le passage suivant du livre, en Colette 1, 12 à 2, 26. Cette fiction royale reflète la tentative de Qohelet d'acquérir de nouvelles connaissances plus approfondies à l'aide des possibilités dont dispose un roi. Mais à la fin, cette tentative le conduira vers un autre but. Le sage salomonien Qohelet, armé de toute la connaissance de la tradition de sagesse salomonienne, échoue dans cette entreprise royale, mais gagne des perspectives qui lui permettent de réajuster sa vision du monde. Au-delà du livre des Proverbes et des limites de la tradition sapientiale, Qohelet développe sa propre pensée qui lui permet d'accepter ses limites de l'être humain et de trouver une manière d'y faire face. Celui qui se base sur la stabilité du monde et sa dynamique n'est pas complètement perdu au sein de ce cosmos, malgré toutes ses propres limites. Qohelet 1, 2, 3 à 11, qu'on a maintenant abordé un peu plus approfondi, est le texte initial pour la reconstruction de la compréhension, de la perception du monde qu'on peut trouver dans le livre de Qohelet. La position de ce texte au début, lui donne l'importance qui est significative pour l'interprétation de l'ensemble du livre. Dans la suite du livre, les aspects de cette perception du monde apparaissent maintes fois. Nous n'en citerons que deux exemples. Le premier verset, que je veux maintenant encore brièvement aborder, se trouve dans un texte qui traite du temps et que nous allons analyser plus en détail la semaine prochaine. Pour l'instant, il me suffit de mentionner une partie d'un verset, verset 11, première partie. Il fait toutes choses belles en son temps. Il a fait toutes choses belles en son temps. Et en hébreu, c'est Et Hakol Asa Yafe Be'ito. Selon Qohelet 3:11, Dieu a tout fait beau en son temps. En hébreu, Et Hakol Asa Yafe Be'ito. Si l'on lit cette qualification du tout comme un commentaire du texte initial du livre, l'idée d'une réalité ordonnée s'associe à la conception de Dieu comme celui qui est à l'origine de cet ordre. Qohelet n'utilise ni la racine bara, créer, qui décrit la création divine dans le premier texte de la Bible, dans Genèse 1, ni Qohelet dit, comme le texte le fait, ce premier texte de la Bible, premier chapitre de la Genèse, ni Qohelet dit que tout est tov, bon ou bien, mais selon Qohelet, Dieu a fait toute chose belle. En hébreu, yafé. Cela fait peut-être référence à des idées proches de la notion de kalos en grec. Qohelet pourrait tenter ici de traduire cette notion yafé. Cette notion en grec, kalos, par l'hébreu, yafé. Et vous voyez, la Septante fait tout à fait cela. Le yafé du texte hébreu est traduit par kala, donc beau, en kairo, autou. Qohelet pourrait ici tenter de traduire la notion et aussi la conception grecque par un terme hébreu et avec be'ito. À son temps. Cette idée s'inscrit dans le concept du temps dans Qohelet 3. Mais indépendamment de cela, cette expression exprime également une vision du monde qui suppose au sein des processus dans le monde l'existence d'un moment opportun et approprié en grec, un kairos, qui existe pour chaque chose. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Et le deuxième texte que je veux encore très brièvement aborder se trouve dans Colossiens 7, 13. Là, on lit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui donc pourra redresser ce qu'il a courbé ?» L'impératif au début, « re-et », regarde, vois, voici, invite d'abord le lecteur à contempler l'œuvre de Dieu. Puis, à la deuxième partie du verset, suit alors l'une des questions typiques de Kohelet. Qui mi yuchal ? Qui peut redresser ce qu'il a courbé ? La réponse attendue est sans doute personne. Cela souligne bien les limites de l'être humain qui ne peut rien changer à l'œuvre de Dieu. À cela s'ajoute une idée remarquable pour l'œuvre de Dieu et pour Dieu lui-même. En utilisant la racine Kohelet avance la thèse selon laquelle Dieu n'est pas seulement celui qui a mis en place un ordre bon et juste, mais qu'il est également celui qui, dans cet ordre, courbe, plie et aussi déforme. Derrière la vision du monde comme quelque chose de potentiellement courbé se cache la compréhension de Dieu comme créateur de ce qui n'est pas juste et de ce qui n'est pas bon. Celui qui fait tout fait aussi ce qui est mauvais. Cette idée se trouve déjà plusieurs siècles avant Kohelet dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, où on peut lire « Moi, Adonai, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée aussi le ra en hébreu, le malheur, le mal. C'est moi, Adonai, qui fais toutes ces choses. » En Ésaïe 45, on y lit que Dieu fait non seulement la lumière, mais aussi les ténèbres, non seulement la paix, en hébreu, shalom, mais aussi ce mal, le ra. Dans le livre de Job, Job discute avec ses amis de la possibilité qu'un Dieu peut se détourner et devenir un adversaire. Kohelet, dans son livre, n'approfondit pas ce débat-là, mais il connaît les abîmes du monde et de son créateur. Revenons pour terminer à la vision du monde de Kohelet et à sa thèse principale selon laquelle tout est hevel, vanité. Pour Kohelet, le caractère éphémère de la vanité et la vanité du monde sont incontestables. Mais c'est précisément à propos de hevel, vanité, qu'il trouve une manière d'aborder ses idées qui ne le conduit pas au désespoir, mais lui permet d'adopter une attitude qui sait faire face aux limites et à l'éphémère, aux courbures et aussi aux ruptures. Nous avons déjà vu la semaine dernière que Kohelet, fort de cette connaissance, présente la joie de vivre comme une option pour l'être humain. Nous y reviendrons la semaine prochaine lorsque nous allons analyser plus en détail la conception du temps développée dans le livre de Kohelet. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.